Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Récemment, nous avons abordé le thème « Dieu est amour ». Et aujourd'hui, nous allons continuer notre série de discussions sur le sujet « Comment le chrétien doit-il aimer à son tour ?»
Notre invité Jean-Marc va nous guider dans nos réflexions.
Le mari est le chef de sa femme comme le Christ est le chef, la tête de l'Église qui est son corps et dont il est le sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Quant à vous, mari, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme, comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire. Chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps.
Nous venons d'écouter la lecture de la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 23 à 30. Et nous allons à présent nous pencher sur la question: comment véritablement aimer sa femme ou son mari? Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Yann, bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler du mariage. Pour la plupart d'entre nous, le mariage représente probablement la relation la plus importante et la plus intime que nous pouvons vivre. Et pourtant, nombreux sont les mariages qui rencontrent des difficultés et où les conflits s'établissent et deviennent difficiles à résoudre.
Pouvez-vous nous dire pourquoi?
Beaucoup de facteurs peuvent contribuer au désaccord. Mais je ne voudrais pas m'attarder sur cette question, car je reste convaincu que si chaque conjoint prenait au sérieux l'enseignement de l'apôtre Paul tel que nous venons de le lire, la qualité de bien des mariages serait améliorée.
Pouvez-vous vous expliquer davantage?
Bien sûr. Nous avons déjà appris que le mot « amour » ou le verbe « aimer » revêt dans notre langue diverses significations et que chacune d'entre elles exprime un sentiment différent selon notre contexte. Nous savons aussi que la Bible utilise souvent le mot grec « agapé ».
Rappelez-nous le sens du mot « agapé » et parlez-nous de sa pertinence dans cette discussion sur le mariage.
Voici une définition de l'amour agapé. C'est l'amour qui se donne à l'autre. C'est l'amour qui cherche le bien de l'autre et qui prend en considération ses intérêts et ses besoins en cherchant à y répondre. C'est aussi l'amour qui est prêt à faire des sacrifices pour l'autre.
Mais Jean-Marc, quelle est la pertinence de ce mot pour notre discussion?
D'abord, beaucoup ne considèrent comme important dans le mariage que l'amour sentimental et sexuel, et ils négligent l'enseignement biblique que je viens d'évoquer. Bien sûr, tout ce qui est sentimental et sexuel a une place importante dans le mariage. Mais pour qu'un mariage réussisse, il faut bien plus que cela. Ensuite, nous sommes tous des pécheurs, c'est-à-dire que nous avons des traits de caractère qui tôt ou tard peuvent ternir nos relations personnelles, même les plus intimes. Par nature, nous sommes égoïstes. Voilà pourquoi, dans notre couple, nous avons tendance à vouloir recevoir plutôt qu'à donner. Nous désirons que l'autre s'occupe de nous, mais nous sommes moins disposés à répondre à ses propres besoins. De plus, lorsque notre conjoint commence à nous décevoir, à ne pas nous accorder ce que nous attendons de lui, il est dans notre nature de vouloir l'obtenir à tout prix, même si nous devons avoir recours à la force. C'est ainsi qu'un mari ou une femme peut exercer une pression éprouvante sur son conjoint. C'est ainsi que commencent des disputes, des conflits qui mènent parfois à une rupture de relation et au divorce. De même, des attitudes égoïstes dans le couple peuvent parfois conduire à la maltraitance et générer des paroles d'une extrême violence. Toute cette souffrance, parce que l'on pense d'abord et toujours et surtout à soi, et que l'on ne désire pas prendre en considération le bien-être de son conjoint.
Ceci explique pourquoi nous devons prendre au sérieux l'enseignement biblique sur l'amour, afin d'honorer Dieu et d'être soi-même plus heureux.
Absolument. Le texte écrit par l'apôtre Paul que nous avons lu nous encourage à prendre le Seigneur Jésus comme un modèle, car Jésus nous enseigne sur la manière d'aimer. De plus, ce même texte nous exhorte aussi à appliquer les leçons apprises sur cet amour dans notre vie conjugale.
Mais le Seigneur Jésus n'a jamais été marié. En quoi peut-il être un exemple ?
Ceci est vrai. Toutefois, dans les évangiles, nous observons Jésus à l'œuvre. Et son exemple nous incite à réfléchir sur la manière de vivre l'amour de Dieu dans toutes nos relations personnelles, notamment dans le mariage dont nous parlons aujourd'hui.
Parlez-nous donc de Jésus.
Les évangiles nous dévoilent que Jésus est venu dans le monde pour servir les intérêts des hommes et des femmes. Ainsi, il n'est pas venu pour se servir des autres, ni pour se faire servir. Écoutons à ce sujet Marc, chapitre 10, verset 45. « Car le Fils de l'homme, nous est-il dit, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. » Ainsi, si chacun d'entre nous se demandait « Comment puis-je servir ma femme ou comment puis-je servir mon mari ?» de nombreux mariages se porteraient beaucoup mieux. Un deuxième exemple. Jésus est venu pour offrir le pardon de Dieu et non pour condamner les hommes. Combien de mariages souffrent parce qu'ils ploient sous des reproches incessants et des critiques ? Combien de maris ou de femmes se sentent rabaissés ou condamnés ? Si seulement les hommes et les femmes se supportaient mieux, si seulement ils étaient prêts à pratiquer le pardon et à réfléchir à la portée de leurs paroles.
Jésus a exprimé son amour en donnant sa vie. Il s'est livré sur la croix pour sauver son peuple. Que pouvons-nous apprendre de son sacrifice ?
Peu d'hommes se sont trouvés en position de mourir pour protéger leur femme d'un danger. Or Jésus, lui, a donné volontairement sa vie pour les autres. Il s'est donné pour sauver les hommes et les femmes. Il nous apprend par là même que pour aimer sa femme, que pour aimer son mari, il y a un prix à payer. Pas en termes d'argent, mais en temps, en effort et en énergie. Il faut parfois savoir renoncer à ce que l'on aurait souhaité entreprendre afin de favoriser le bien de l'autre et rendre son couple plus solide.
Nous approchons de la fin de cette discussion et j'ai le sentiment que nous n'avons fait qu'effleurer notre sujet.
Il est vrai qu'il y aurait bien plus à dire. Mais si seulement nous pouvions retenir l'essentiel sur l'enseignement de Jésus et le mettre en pratique, notre mariage serait plus fort, plus heureux et davantage à la gloire de Dieu.
Rappelez-nous donc l'essentiel de cet enseignement.
Il est important de comprendre, lorsqu'on s'engage à se marier, que l'amour consiste entre autres à faire du bien à son mari ou à sa femme. L'amour, c'est respecter l'autre, c'est le servir, c'est désirer répondre à ses aspirations, c'est vouloir satisfaire ses désirs.
Merci Jean-Marc pour ces conseils précieux.
Parce que nous venons de parler de l'amour du chrétien, nous voulons à présent réfléchir sur l'amour de Dieu.
Ainsi, tout au long de cette série, nos méditations bibliques porteront sur les images de l'Ancien Testament, donnant un aperçu de cet amour. Écoutons pour cela les paroles du prophète Ésaïe, chapitre 49, versets 14 à 16. Ensuite, Alain nous fera part de quelques réflexions sur ce texte.
Cependant, si on dit « L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié. » Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit ? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu ? Et même si les mères oubliaient leur enfant, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts.
À travers les écrits du Nouveau Testament, nous apprenons que Dieu est comme un père pour nous. Or, dans le verset que nous venons de lire, le prophète Ésaïe compare l'Éternel à une mère. Il y souligne la fidélité de Dieu ainsi que la constance de son amour. Il semblerait que beaucoup, à l'époque du prophète, se demandaient si l'Éternel les avait oubliés, s'il les avait abandonnés. Vous arrive-t-il, cher ami, de vous poser la même question ? Comment arriver à une telle conclusion ? Parfois, nos épreuves nous semblent trop lourdes, et nous n'en voyons plus la fin. Nos circonstances, nos conditions de vie semblent dépourvues d'espoir, et nous pouvons nous demander « Que fait pour nous ce Dieu qui déclare être amour ? » Est-il possible qu'une mère abandonne et oublie le bébé qu'elle nourrit au sein ? Non, car une telle attitude est contre nature. Alors comment oser penser qu'un Dieu d'amour puisse oublier les siens ? Il est possible qu'un nourrisson malade et fiévreux ne soit plus très conscient de la présence de sa mère qui veille sur lui à ses côtés. Or, elle demeure présente auprès de lui. Elle lui assure tous les soins dont il a besoin et le berce de sa tendresse. Le nourrisson submergé par la douleur n'est plus conscient de ce qui se passe autour de lui. Et pourtant, sa mère est présente près de lui. Elle le comble d'attention. Elle l'aime. Et elle demeure à son chevet tant que son enfant a besoin d'elle. Si toute mère qui aime son enfant se conduit ainsi, comment imaginer que l'Éternel, le Dieu d'amour, puisse être indifférent envers nous lorsque nous sommes affligés et en proie à une profonde détresse. L'existence du mal et de la souffrance demeure un mystère difficile à sonder. Mais nous pouvons affirmer que tout raisonnement qui suggère que l'existence du mal prouve la non-existence d'un Dieu d'amour est à refuser. De même, tout raisonnement qui suggère que la souffrance dans notre vie est la preuve que l'Éternel ne nous aime plus est à rejeter. Lorsque nous avons mal, nous avons besoin d'être rassurés et de nous savoir aimer. Or, la Bible l'affirme et le répète. L'Éternel est présent avec celui qui souffre, l'Éternel veille sur celui qui se tourne vers lui. Les circonstances de nos vies peuvent changer et aller de mal en pis. Mais l'amour de l'Éternel, lui, ne changera jamais, car il demeure le Dieu fidèle et constant sur lequel nous pourrons toujours compter.
Merci Alain. Comparer l'amour de Dieu à celui d'une mère est une illustration biblique nous aidant à mieux comprendre l'amour de Dieu pour nous, ses enfants.
Continuerons la prochaine fois nos deux séries sur le thème de l'amour. Nous nous pencherons alors sur la question « Comment aimer nos enfants ?»
En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.